Je vais commencer par vous parler des mécanismes qui font monter les matières vers la surface. Donc, ce que vous voyez ici, c'est une image d'un dike, qui traverse les dépôts classiques, donc les dépôts d'explosion volcanique, qui ont recouvert la côte islandaise. Ce que vous voyez ici, c'est un dike, c'est en bas d'une falaise, et une dike qui monte à travers la surface. Qui finit par alimenter, vous voyez peut-être ici, un groupe de lave, il y a une différence nette entre le grain de ce groupe qui est stratifié et puis cette roche submersive qui a fait du coup de lave solidifié. Donc le lave va alimenter cette coulée. Donc le plan, c'est, je vais vous parler de pourquoi on s'intéresse à ça, quels sont les propriétés importantes. Ensuite, je vais vous faire quelques principe de base pour comprendre comment ça marche, les dikes. Donc, en fait, on va considérer que les dikes, ce sont des fractures hydrauliques qui s'ouvrent dans un milieu qui est élastique. Donc, il faut à la fois avoir un liquide qui s'écoule. Les liquides magmatiques sont des liquides visqueux, donc il faut traiter l'écoulement du liquide. Il faut aussi traiter la déformation élastique des roches encaissantes. Et puis, il faut aussi traiter ce qui se passe en bout de dike. Parce qu'il faut spécifier qu'est-ce que c'est qu'un dike et qu'est-ce que c'est qu'une fracture. Et quelles sont les conditions respectées pour que la roche se casse. Donc on va aller rapidement là-dessus, donc il y aura quelques équations, mais ce ne sera pas long. Et puis ensuite on va voir que le problème, c'est que tout est propulsé par la force d'Archimède, et la force d'Archimède, c'est lié à la différente densité entre le magma et la roche encaissante. Et évidemment, la force d'Archimède, elle est variable sur les endroits. Le magma, lui, on va considérer dans un premier temps que sa densité ne bouge pas, on la fera varier dans un deuxième temps. Mais ici, on considère que c'est une bonne approximation, et bien le drag, lui, va traverser des roches de densité différente, et donc on va voir qu'à partir d'un certain temps, il peut se retrouver dans des roches qui sont plus légères que lui, ou quelqu'un, à force d'Archimède, doit l'empêcher de continuer à progresser. Donc on va voir dans quelles conditions ça se passe, dans quelles conditions c'est important. On va ensuite voir dans quelles conditions, et bien, le drag peut en fait devenir instable et engendrer une fracture qui est horizontale, où quelqu'un, au lieu d'alimenter une éruption, bien, il va alimenter ce qu'on appelle un cil, c'est-à-dire une fracture qui va se propager dans un plan horizontal et qui va en fait être un proto-réservoir de magma. Donc, dans ce cas-là, au lieu d'alimenter une éruption, il va simplement contribuer à créer un réservoir de magma. Et puis ensuite, on parlera des volatiles. Du coup, on trouvera pourquoi c'est intéressant de travailler sur ces plans de magma, parce que ça donne des comportements qui ne sont pas intuitifs et qui auraient pu conduire à des grosses erreurs de diagnostic. C'est vrai que les effets volatiles ont un effet qui n'est pas intuitif. Donc je reprends cette image, il faut vous souvenir de hier, voilà la séquence typique de différenciation, enfin, dans laquelle on passe d'un magma qui est basatif, c'est des magmas primitifs qui sont produits par la fusion partielle dans l'enjeu terrestre, jusqu'à des magmas beaucoup plus visqueux qui sont des réglites. Ce qui m'intéresse ici, c'est il faut distinguer entre la viscosité qui va décrire plus ou moins grande facilité qu'un magma de s'écouler. Mais dans une première approximation, pour les magmas qui sont très peu cristallisés, la fraction de cristallisée est critique, si vous voulez, on pourra discuter après. Les magmas sont des liquides newtoniens, ça veut dire qu'ils s'écoulent toujours. Il n'y a pas de seuil pour forcer les magmas à s'écouler. Et donc, ici, la viscosité ne fait que déterminer la vitesse à laquelle les magmas s'écoulent, mais non pas le fait ou non que le magma s'écoule. Ce qui est important ici, donc, c'est la densité. Et vous voyez que la densité va de ces valeurs-là. Ces valeurs-là sont des valeurs qui sont calculées pour les magmas. Et ce qui est important, c'est de les rapporter aux densités des roches encaissantes. Donc la croûte moyenne a une densité moyenne d'environ 2,7. En fait, ça bouge un petit peu sur les endroits. Je m'en citerai un tout petit peu, pas beaucoup, parce que ce serait faire une carte de la géologie de la planète. Mais grosso modo, la croûte moyenne est de l'ordre de 7. Donc vous voyez qu'en principe, les basaltes, à moins que vous soyez vraiment sur les termes les plus extrêmes ici, ils sont soit à la densité moyenne de l'ordre terrestre, soit légèrement moins dense. Donc ça veut dire qu'ils doivent avoir la capacité d'atteindre la surface. Et d'ailleurs, dans beaucoup de régions, les éruptions volcaniques se signalent par l'arrivée de basaltes à la surface. Et vous voyez qu'à l'autre extrême, eh bien, on se retrouve avec des densités qui atteignent les valeurs des densités de roches sédimentaires, donc la couverture sédimentaire qui s'accumule au-dessus du sol cristallin. Donc vous voyez que dans ce cas-là, si les roches sont à 2,35, je vais vous donner les valeurs plus tard, voyez qu'en fait, la plupart de ces lapins sont plus denses que ces roches-là. Donc en fait, lorsqu'ils vont atteindre ces niveaux superficiels, eh bien, la force d'action va lutter contre leur propagation. On voit que dans certains cas, ça ne les empêche pas d'y arriver, mais ça veut dire que près de la surface, et donc ce qui nous intéresse pour savoir s'il y a une éruption ou non, c'est essentiel de comprendre le détail de ce qui se produit lorsque le magma arrive dans des roches qui sont peut-être moins denses. Donc ici, c'est le principe de base. Donc ici, je vous montre un diagramme dans lequel il y a la pression en fonction de la hauteur au-dessus de la source. C'est schématique. Hein. La surface de la terre est ici. Donc je démarre avec un magma qui est à peu près à l'équilibre de pression avec sa source. Pourquoi? Parce que la source, c'est en général dans des régions où la température est élevée, où les roches se déforment très facilement, donc ne peuvent pas accumuler des grandes différences de pression entre le liquide et puis le solide en descente. Et puis, ce que j'ai dessiné ici, c'est un schéma avec la pression dans les roches en descente qui va atteindre 0 à la surface, à 0 à la pression atmosphérique. Le magma, s'il est plus léger, en moyenne, on a c'est le cas, la colonne magma, si je la considère statique, eh bien, la sélection, c'est une des vraies lois hydrostatiques. Vous voyez que puisque le magma est moins dense que la roche en descente, la pression diminue moins rapidement que dans les roches, ce qui veut dire que la colonne de magma va accumuler différentes de pression avec les roches en descente. Typiquement, les surpressions, on en reviendra plus tard. Donc ça, c'est d'ailleurs ce qui permet au magma de construire des édifices volcaniques. Donc, ça peut être avec un édifice volcanique, c'est un relief positif. Donc, ça veut dire que le magma est capable de dépasser la surface et de monter beaucoup plus haut. Donc, c'est une colonne qui peut monter jusqu'à des altitudes qui sont encore édifices volcaniques. Donc ça, c'est le schéma général. Et ce qui est important ici, c'est que la force qui propulse le magma, c'est la force d'Archimède. Et on va appeler ça la pression de magma. Donc cette pression de magma, c'est une pression, vous allez voir, c'est pas la vraie pression de magma, parce que lorsque le magma se met à bouger, sa pression va bouger, puisque le magma s'en appelle une perte de charge, qui est liée en particulier au fait qu'il faut déplacer le magma, et il y a des frottements visqueux qui se produisent lorsque le magma se déplace. Ça, c'est finalement la force motrice, on va voir quelles sont les différents types de force résistante. Donc, pour montrer un peu ce que c'est que la croûte en moyenne, si vous regardez la littérature, c'est un peu désolant, mais il y a finalement assez peu de choses sur la densité dans la croûte. Et c'est d'autant plus dommageable que ce qui nous intéresse, ce sont les forces d'Archimède, sont les différentes densités. Donc on sait tous que la croûte terrestre est de l'ordre de 7 à 3 en densité, de 1700 ou 3000 en kilomètres par mètre cube. Mais évidemment, l'erreur qu'on fait sur ce chiffre de base, il est encore plus important sur le calcul de la force d'Archimède qui dépend de la différence de densité, qui est plus faible, donc une petite erreur sur ce chiffre-là a un gros impact sur la différence avec la densité du magma. Donc c'est un peu désolant, mais nos connaissances sur la densité de la croûte sont, à l'heure actuelle, sont pas tout à fait au niveau qui serait souhaitable pour faire des modèles plus précis. Donc voilà un modèle moyen de croûte qui a été établi à partir de géophysique. Donc ça a été établi, c'est ce qu'on peut faire de mieux sur la moyenne, c'est établi par des géophysiciens qui ont travaillé sur la croûte. Donc voilà, en fait, c'est moyen, donc ça veut dire que c'est beaucoup de croûtes différentes qui ont été rassemblées dans un seul graphe. Voilà la profondeur, ça c'est la profondeur moyenne du bourreau, donc l'interface qui sépare la croûte du manteau. Vous voyez, bon, cette densité qui... C'est normal, elle n'arrête pas d'augmenter lorsqu'elle s'enfonce. C'est une stratification qui est stable. Les roches les plus légères sont mises au-dessus de roches les plus lourdes. Donc, encore une fois, c'est vraiment une courbe moyenne. Donc, vous voyez qu'il y a des roches qui sont bien plus denses en croûte profonde. Voilà la densité moyenne des basaltes. Donc, vous voyez qu'en moyenne, alors selon les régions, ce sera très différent. Et bien, le basalte est bien plus léger que la croûte en descente. Mais qu'à partir de niveau plus superficiel, il est en moyenne bien plus dense que les roches en question. Donc, dans ce cas-là, le diagramme précédent va être changé. C'est le même diagramme que précédemment. Voilà le profil moyen de pression d'une roche descente. Avec le magma, il est plus léger, mais il peut devenir plus lourd. C'est-à-dire la pression va se réabaisser plus rapidement. Et il ne peut pas atteindre la surface en principe. Alors, encore une fois, c'est une colonne de magma statique. On va voir ce qui se passe. Donc l'esprit, la facturation nordique, c'est que le magma qui est sous pression est capable d'accumuler suffisamment de contraintes pour fracturer les roches qui l'entourent. Et donc chaque épisode de migration conduit à des petits séismes qui sont en général en tête de dike, parce que c'est là que les contraintes sont les plus importantes, j'en reviens là-dessus. Mais c'est une zone autour de la tête qui est mise sous forte contrainte. Donc ce n'est pas vraiment le front qui émet des séismes, c'est toute une zone qui a une certaine épaisseur, on parlera de cette épaisseur plus tard. Donc voilà ici des enjeux de séisme très précis qui ont été faits sur cette éruption du de la fournaise. Vous voyez qu'il y a une migration très nette des séismes. Je reviendrai sur cette séquence éruptive plus tard parce qu'elle contient beaucoup de renseignements très intéressants. Vous voyez ici le nombre de séismes. Donc vous voyez que ici il y a un petit saut, si vous faites des régressions linéaires à travers ces grains, ça vaut ce que ça vaut. Il y a une légère différence de vitesse de propagation entre cette partie-là et cette partie plus superficielle. Puis vous pouvez deviner que vers la surface, il y a encore peut-être une accélération, on verra ça plus tard. Vous voyez que là où on voit ce changement de vitesse, eh bien, il y a des séismes beaucoup plus importants, ce qui suggère ici qu'on a une interface. Donc cette interface, on ne la connaît pas, parce qu'il y a une profondeur qu'on peut atteindre, mais dans la contexte, on sait qu'il y a ce type d'interface. Donc le message qu'on va dire ici, c'est qu'effectivement le magma arrive à monter, et que dans certains cas, il a l'air de buter un petit peu sur les niveaux, on va regarder ce qui se passe sur ces niveaux-là. Et puis que lorsqu'il passe dans des roches qui sont différentes, puisqu'on a un niveau qui est une interface, et qu'au-dessus de ces roches différentes, et avec la vitesse peut être différente, et puis même peut se mettre à changer assez dramatiquement que la surface. Donc c'est au dans la fournaise, est-ce que les dalles qui existent? Ben oui, c'est souvent très près du sommet. Donc voilà les dalles qui sont figées, ce n'est pas le dalle qui est en mouvement, ainsi. Et évidemment, ce n'est pas la taille exacte du dalle, puisque c'est ce qui reste une fois que le magma s'est écoulé et qu'il s'est refroidi. Mais on va dire, on verra à peu près là, l'épaisseur typique d'un dalle basaltique, c'est l'ordre du mètre. Donc c'est pas d'un mètre. Je vous montrerai des photos plus tard, c'est spectaculaire, les dalles qu'on peut les suivre parfois sur des milliers de kilomètres. Sur des dizaines de kilomètres. Donc vous voyez qu'il y a un édifice organique près de la surface, c'est perclus de fractures de ce type-là en plus de magma qui vont alimenter des éruptions. La formation de cils, je vous montre ici l'Antarctique, c'est assez spectaculaire parce que évidemment l'Antarctique c'est pas habité, il y a peu de végétation, ça permet de voir très clairement. Donc en Antarctique, ce que vous voyez ici, ce sont des roches sédimentaires qui sont en marron, et puis ces interfaces-là ici qui sont remplies en fait de basalte. Donc c'est des cils, vous pouvez voir certains trucs de paysage, qui datent de 380 millions d'années. Donc c'est là, vous voyez que le magma n'est pas arrivé sur la surface, et s'est accumulé dans des milliers d'années. De plus près, donc c'est des niveaux de... Voilà, vous voyez qu'il y a la stratification, le magma... en place dans ces strates sédimentaires. Un autre exemple qui est au Texas, c'est un parc national qui est magnifique pour les volcanologues, parce qu'il y a plein de dalles. Ce que vous avez ici, c'est des roches sédimentaires qui sont stratifiées horizontalement, roches sédimentaires au-dessus. Vous voyez ici, peut-être, si vous devinez, les joints qui sont verticaux sont des joints qui sont de refroidissement et de contraction du passage dans ce qui s'est fait. C'est un des très très beaux exemples à Saint-Flour, si vous vous en intéressez à Saint-Flour. Et donc, vous voyez ici que c'est un site qui s'est formé dans les roches sédimentaires et qui s'est mis en place à l'interface entre deux niveaux sédimentaires. On verra que ce n'est pas un hasard si c'est au passage de l'interface que ça se produit. Donc, la propagation dans une fracture hydraulique, c'est une caractéristique très simple, c'est que ce n'est pas du tout comme une circulation dans un canal qui est dans la dimension connue au préalable. C'est vraiment linéaire parce qu'en fait, les dimensions de la fracture sont fonction du débit qui doit passer au canal. Donc, dans le cas d'une. On va travailler à deux dimensions, on va considérer que les dalles s'étendent sur des centaines de kilomètres, on peut les traiter comme des fractures dans un plan vertical. Donc, si vous regardez ce qui se passe dans un canal qui est de largeur A, bien le flux. Liquide qui passe au parallèle et lié au gradient de pression, la largeur au cube, divisée par la viscosité, U. A A est fixé, c'est un canal. Si vous utilisez l'eau dans un canal, vous pouvez faire circuler une liquide dans un canal. Donc A étant fixé, vous voyez que maintenant, si je fais la vitesse, A, B, C, bah, c'est comme ça. Il y a les proportionnels au débit. Le débit pourra être fonction à la fois du canal en pression et de la viscosité. Mais A est fixé. Donc il y a une relation proportionnelle entre la vitesse et le débit. On va considérer dans la suite que pour des raisons simples, on va considérer des cas où le flux est fixé par la source. Approximation, ça permet bien de formaliser la relation entre les variables importantes. Vous voyez que pour un canal comme ça, la vitesse est proportionnelle au débit. Dans le cas d'un taille, c'est pas du tout pareil. Donc, une fois qu'on a une relique, voilà, qu'elle tête ça, je remonte dans le laboratoire. C'est une facture hydraulique qu'on a fait dans une gélatine. Donc, on a joué du liquide visqueux. Et vous voyez cette forme caractéristique, bon, c'est une fissure qui s'étendait sur une trentaine de centimètres de haut. La forme caractéristique, c'est une queue qui est très mince, et puis un nez qui est bien plus large. Donc, il y a une vraie différence entre le nez et puis la queue. On va considérer que dans la W, la largeur, parfois je l'appellerai H, je suis désolé, mais ce ne sont pas toujours les mêmes, et on sera compliqué. Et donc, on va regarder ce qui se passe dans une structure hydraulique. Donc, on va considérer que ce sont des pressions, en fait, c'est des contraintes, c'est aussi simple que ça comme des pressions. Il y a quatre types de pressions qui sont associées au mouvement et à la fracturation des roches. Il y a d'abord une pression nécessaire pour fracturer la roche, une pression qui va être évidemment surtout visible en fond de fracturation. Il y a la pression que j'appelle la pression plastique, c'est-à-dire la pression qui s'exerce sur les murs du dike. Les murs, c'est la roche en descente. C'est cette pression-là qui va être disponible pour couvrir la fissure, donc c'est la pression qu'on applique au bord du dike pour couvrir. VV, ce sera ce que j'appelle la perte de charge visqueuse, donc c'est la pression qui est nécessaire à faire s'écouler le magma. Donc plus le magma est visqueux, plus il y a de pression forte. Et puis dernièrement, VV, c'est la pression hydrostatique, c'est-à-dire la pression qui est au poids du magma. Donc évidemment, vous vous rendez bien compte que la pression motrice, c'est celle-là, c'est la pression du magma. Et puis les autres sont des pressions qui vont résister. Du coup, si la pression élastique est faible, le dike ne peut pas s'ouvrir, parce qu'il n'y a pas assez de force pour ouvrir les roches. Si la pression est trop faible en fond de fracture, eh bien, je ne peux pas fracturer la roche, parce que j'ai une pression en contrainte pour rompre. Voilà. Donc il y a une force motrice et puis une force résistante. Donc regardons d'abord la queue. C'est important de voir ces différentes pressions. Dans la queue, j'ai pas de problème dans la fracturation, à traiter la fracturation. Dans la queue, j'ai bien fracturé, donc il n'y a pas de problème. Donc la pression de fracturation, je n'ai pas à la traiter. Il me reste trois pressions. En fait, la pression élastique, elle est négligeable pour une raison très simple, c'est que si on considère que la fracture s'étend sur une grande dimension verticale, pour ça, c'est une pression élastique classique, c'est que l'ouverture d'une fissure de hauteur L, eh bien, elle sera donnée par cette voie. Donc l'ouverture, c'est la largeur, et il est proportionnel à la hauteur de la fissure, que multiplie la pression plastique, divisée par la rigidité des roches, c'est la rigidité. Vous voyez que si L est très très grand, on verra après ce que c'est que ça devient très grand, et bien vous voyez que la pression plastique peut être très faible, hein, pour quelle que soit la largeur HE que vous pouvez considérer, hein, la pression plastique nécessaire à ouvrir la fissure sur cette largeur HE est très faible. Ça veut dire que la pression élastique est négligeable. Donc je vais pouvoir la négliger. Il va me rester deux pressions. La pression hydrostatique, voilà, et puis la perte de charge visqueuse. Donc il y a un équilibre entre ces deux effets. Et donc c'est cet équilibre entre force d'Archimède et puis, perte de charge. Donc dans ce cas-là, je vous montrerai les équations plus tard. Si on considère un débit Q de magma d'exposé mu, et puis un magma qui a une densité rho S, rho n, des roches densité rho S. Vous voyez qu'ici, rho S en règle est positif, donc le magma doit être, dans cette application-là, doit être moins dense que les roches en descente. Ben, si vous traitez le point de découpement en disque, c'est très simple, vous allez trouver que la largeur ici, là, qui est donnée dans cette formule, avec ici la puissance 1 tiers. Si vous calculez la vitesse c'est le débit divisé limité par la largeur du break. Voilà la vitesse. Vous voyez maintenant que cette vitesse, elle est proportionnelle à la visibilité à puissance moins 1 tiers et la puissance 2 tiers. Donc c'est une chose très importante, c'est que vous voyez qu'il n'y a plus de relation linéaire entre la vitesse et le débit. Et puis en plus, il n'y a pas non plus de relation linéaire entre la vitesse et la viscosité. C'est pas linéaire. Et donc ça, ça montre très clairement que dans un écoulement, même si c'est visqueux, ou en principe, il y a une relation de proportionnalité entre les contraintes et les vitesses, dans la mesure où la taille de l'écoulement n'est pas déterminée a priori, bien vous passez dans le domaine non linéaire. Donc qu'est-ce qui se passe dans le nez? Alors le nez, eh bien, on va lui donner une certaine de hauteur, 4 fois L, 4 fois l'étoile, donc là-dedans, je sais que j'ai une grosse pression de fracturation qui va être nécessaire pour faire ça. Donc cette pression est importante, mais elle s'exerce surtout près du fond de fracturation, donc elle est très importante pour traiter le corps même du nez. Puisque j'avais ici, dans cet écoulement, un équilibre entre la pression, la perte de charge et puis la force d'Archimède, et que puisque je suis en train d'avancer avec mon drive, lorsque je me trouve dans cette zone où c'est beaucoup plus large, eh bien, la perte de charge visqueuse est beaucoup plus faible. La pression, la perte de charge visqueuse, ça va être le carré de la largeur, ça va très très vite. Donc dans cette zone-là, la perte de charge visqueuse peut être négligée. Donc c'est une relation simple, on va faire des calculs compliqués, on va les calculer explicitement, mais pour le raisonnement, on peut faire comme ça, ça va donner des dimensions caractéristiques. Et donc, dans le nez, on a un équilibre entre la force d'Archimède et puis la pression élastique qui est nécessaire pour ouvrir ce nez qui est plus large que le reste. Donc à ce moment-là, on fait cet équilibre entre force d'Archimède et pression élastique sur la distance de l'étoile. On a une pression effective qui va ouvrir les roches. Ici, donc G, c'est le module de rigidité. Mu, c'est le cosin de croissance. Le cosin de croissance, il est dans 0,3. C'est pas un facteur très important, mais il ne parle pas beaucoup. Vous voyez que c'est maintenant en H sur H. C'est ici le H qui est déterminé par l'écoulement visqueux dans la queue. Donc, de cela, j'en déduis les dimensions du nez, qui est cette formule-là. Ce que vous devez noter maintenant, c'est que le nez est sensible, pas beaucoup, à la viscosité et au débit. Vous voyez que c'est une puissance incisive, c'est pas grand-chose. Et il est surtout sensible ici à la force d'Archimède. Alors, comment vous faites un calcul pour des magmas typiques, des débits typiques, vous avez trouvé que L, ça se chiffre en kilomètres, je reviendrai là-dessus. La largeur, ça se chiffre en mètres, ça c'est probablement ce que je vois sur le terrain. Donc une dimension ici, c'est une fissure qui peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres de haut, qui est largeur d'un mètre ou deux. Et puis un nez, où la déformation est beaucoup plus importante, qui est en fait de 1 km, 2, 3 km. Donc et comment ça passe? Alors, je vais vous montrer, c'est très difficile de trouver des profils de densité précis, donc ça c'est quelque chose que je vais demander à des amis géophysiciens de pourquoi ils ne se font pas à déterminer la densité. Bon, ça les ennuie apparemment, mais c'est dommage, parce que lorsqu'on s'intéresse au magma, c'est ça qui est important. Donc je montre ici un des rares cas où on a un profil de densité très précis, qui est le bassin de Michigan. Donc quand vous avez l'industrie pétrolière qui va, c'est les industries de pétrole, tout le reste du monde, c'est pas des boîtes. Ils vont regarder les données, ils font des forages, ils en font des centaines, des milliers parfois, ils mettent de la sismique. Ils ont mis même des gravimètres dans les forages. Donc on a un profil de densité qui est très précis. Vous voyez, ici maintenant la densité est en unité, c'est les vraies unités de densité, parce que c'est un paramètre principal en dimension. Enfin, ça va être multiplié par 1000 si vous calculez la masse. Donc vous avez ici la profondeur sur laquelle on a établi ce profil de densité, vous voyez que ça va jusqu'à 4 km de profondeur, et ici la séquence sédimentaire qui est au-dessus du sol cristallin. Donc pour le sol cristallin ici, comme tous les bons sols cristallins, il est entre 2,7 et 2,8. Et puis lorsque vous passez dans les strates sédimentaires, vous voyez que la densité varie, et varie selon les dernières strates. Maintenant si je mets la densité moyenne du basalte à 2,7, vous voyez que si je veux faire un dike à travers cet empilement de roche, vous voyez qu'en fait, le dike est certes plus léger que le quand je saute au petit salin, et il est plus dense, moins dense, plus dense, moins dense, etc. Donc il va se retrouver dans des situations où il va rencontrer des horizons, des densités très différentes, sa forme va changer, beaucoup. Donc la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ce type de stratification est importante? Est-ce qu'on doit la traiter dans le détail ou est-ce qu'on peut se permettre de simplifier la stratification? Donc, grâce aux analyses d'échelle que je vous ai montrées précédemment, on peut simplifier parce que je sais que ce qui est important, c'est la taille du nez. Et le nez, je connais ses dimensions. Donc si je définis une épaisseur caractéristique pour ces strates-là, je vais comparer cette épaisseur caractéristique à l'épaisseur de mon nez, que je vais appeler à l'étoile. Et donc ici, l'importance de la stratification va être mesurée par l'épaisseur caractéristique du strat divisé par la hauteur du nez. Donc si ce paramètre-là est très petit pour 1, chaque strat n'a pas d'influence sur le nez, puisque la seule chose qu'il va avoir, c'est une densité moyenne. Si par contre c'est bien plus grand que elle, c'est bien le qui va avoir en fait des horizons très différents et va se comporter comme s'il traversait des roches très différentes. Donc, les assez intérêts de faire ces analyses de haute dimension, c'est que ça vous permet tout de suite de définir les échelles caractéristiques. Et là, vous avez tout de suite, avec très peu de calculs, vous pouvez raisonner sur la nature du problème. Après, on peut faire un calcul précis, ce que je vous montrerai par la suite, mais vous avez ici un calcul très simple à faire pour déterminer à quelle échelle vous devez travailler. Donc, je dis le N étoile pour les valeurs caractéristiques d'éruption, c'est de l'ordre du kilomètre. Vous voyez que les strates, c'est des strates, il y en a quelques-unes sur les 3 km d'épaisseur. Donc, les deux ordres caractéristiques, c'est des centaines de mètres. Donc, le rapport N sur N étoile est d'ordre de 1. On est juste dans la gamme, il faut se fatiguer à se préoccuper de la stratification. Donc voilà les équations pour traiter la montagne. Donc en écrivant les équations de Navier-Stokes, et puis en traitant les équations sur la masse, on peut écrire les équations en fonction de l'épaisseur du bike, qui est donc H, c'est la largeur. Qui va varier selon ce terme-là. Ce terme-là fait apparaître deux termes là-dedans. Le premier, c'est la pression élastique. Ça veut dire que je peux faire, si j'ai beaucoup de pression élastique, ouvrir le dike. Donc ça va être un effet qui va faire augmenter H, donc H va être positif. Et puis selon la valeur de delta G, et que ça peut avoir l'effet induit, au contraire. Et donc ici, j'ai le terme de force d'Archimède qui peut contribuer à l'ouvrir ou qui peut contribuer à la fermer. Ce qui est important, c'est que ces deux termes-là, vous voyez, la seule chose qui est, c'est delta ρg. Ça, c'est quelque chose que je connais a priori. Donc, en fait, on va devoir comparer delta ρg avec la pression élastique et puis la pression qui est nécessaire pour faire écouler l'air. Si on traite la déformation élastique, ça se traite comme ça. Donc, ça, c'est la pression élastique au bord de fissure. G, c'est la rigidité des roches. Si il y a ce qu'on appelle transformé de Hilbert, par rapport, c'est une forme élastique qui est assez simple. C'est une relation intégrale. Donc ça d'intégration. Et puis on va traiter ce qui se passe en bout de fissure. Donc en bout de fissure, ça nous donne une condition limite pour spécifier ce qui se passe en bout de fissure. La fissure va se fermer, elle se fermera n'importe comment, elle a une certaine forme. Et avec cette forme-là, c'est en racine de ZF, position front fracture et Z coordonnée. Donc c'est une forme en racine, qui a une simple variété, parce que le VH sur les Z sont un peu infinis dans Z dans ZF. Et puis ici, un paramètre. Et ce qu'on appelle la ténacité. Et ça, c'est un paramètre qui est caractéristique des roches. Donc, c'est une propriété intrinsèque du milieu. Bon, on peut dire en fait que pour les roches, dans la mesure où elles endommagent, où elles ont déjà été endommagées, ce paramètre, en pratique, il tend vers zéro. Donc, il n'est pas important sur la modélisation. Mais on peut faire modélisation pour des valeurs, quelles qu'elles soient. Donc, ça intervient dans le calcul. Donc, je vais vous montrer le résultat de ces calculs. Donc, c'est non linéaire, donc il faut faire attention. C'est une calcul assez gros, il faut traiter à la fois. Ça n'a rien à voir avec les calculs qu'il faut faire montrer Sacha. Enfin, c'est certainement quand même. Ces calculs-là demandent plusieurs jours sur un ordinateur assez puissant, parce qu'il faut traiter la déformation élastique très précisément. Et donc, ça demande de traiter ces points-là. Puis, comme c'est une rapport de propagation, il faut travailler avec des méthodes implicites. Des méthodes implicites sont toujours un peu lourdes, puisque les données qui s'inversent. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment se comporte un dike qui va à la surface. dire que le magma il est clairement léger en profondeur. Donc je vais prendre le delta rho 0 égale 1, qui va être mis sans dimension. Et puis on va considérer, par rapport à ces valeurs de 1, les strates supérieures qui ont des valeurs différentes, le delta rho plus, donc qui vont être rapportées à cette valeur de 1. Le delta rho plus, on va le prendre uniquement négatif, c'est-à-dire qu'on va considérer le cas où le bac rencontre des roches qui sont moins denses que lui. Donc ça veut dire que le rang où le bac va avoir du mal avec ces roches-là. Pour des valeurs différentes, je l'ai fait, mais je n'ai pas le temps de montrer ça, je ne vais pas aller plus loin. Donc voilà un bac qui avance, mon interface est là, delta rho plus maintenant c'est moins 1, donc on a changé complètement la probabilité, donc il est là, voilà la forme qui va dans cette dimension-là. Donc ça a été mis sans dimension, il faut faire attention que la largeur ici n'a rien à voir avec la hauteur, c'est deux échelles différentes. Donc typiquement ici, on se calcule, ça c'est 1 mètre, ça c'est 20 km. Les échelles de hauteur et les échelles de largeur n'ont rien à voir. Donc le gros variant des lacs, vous voyez qu'il a cette caractéristique que je vous ai montrée, c'est une queue mince et une tête plus large. Et on va voir, donc ça c'est calculé de manière autocollante, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque le lac atteint l'interface. Donc il arrive, bien, quand il y a l'interface, bien, il pénètre, parce qu'il a la pression quand même. Mais évidemment, il a du mal à passer au-dessus. Donc le débit de magma qui est toujours fourni, bien, comme il a du mal à avancer, ben, il gonfle. Voilà. Il n'arrive pas de gonfler. Donc il arrive à passer un peu au-dessus, mais il va avoir du mal à passer. Vous voyez quand même qu'il pénètre sur des distances importantes, ça sera sur des kilomètres, mais que ça fait qu'il gonfle. Donc ça, je vous demande de bien de noter ça, c'est que le lac ne passe pas. Et en fait, par définition, il ne passe pas parce qu'il n'arrive plus à s'écouler, et donc en fait, il va s'accumuler dans une zone qui va s'agrandir. Donc il y a du gonflement. Et les gonflements, ici, avec cette demi-largeur, ben là, on atteint ici typiquement 4, 5, 6, 6 mètres. Donc pour comprendre ce qui se passe, on avait vu déjà dans le nez qu'il y a grosso modo un équilibre hydrostatique qui s'installe, puisque la pression liée à l'équilibre est faible. Donc voilà ce qui se passe dans la fissure. Donc ça c'est l'interface. Il y a une épaisseur en dessous, une épaisseur au-dessus. Et puis il y a une pression maximum dans l'interface. Puisque en dessous, le magma est plus léger, en dessous il est plus lourd. Donc c'est simplifié. Mais comme c'est quasi hydrostatique, je vais pouvoir en déduire des lois très très simples. Donc je montre le résultat du calcul par rapport aux lois très très simples de basé sur l'équilibre hydrostatique. Donc ça c'est L plus ou moins, donc c'est la hauteur du lac au-dessus. La hauteur du lac en dessous, rapportée à une dimension caractéristique. Et les courbes en très basse sont les calculs numériques, et ça, c'est la prédiction du modèle hydrostatique. Vous voyez évidemment au début, ça c'est le temps zéro si on prend le lac atteint l'interface. Bon, ça, c'est pas du tout hydrostatique, parce que quand le lac est tout petit, le calcul hydrostatique n'est pas valable. Et très rapidement, ça obéit assez bien de l'interface. Voilà. Donc on peut faire des calculs. Et là seulement, je vais vous montrer ça, il y a vraiment du coup. Maintenant, on va regarder ce qui se passe lorsqu'il y a un horizon plus fin. Vous avez vu les accumulations de strates dans le bassin de Michigan. Vous avez vu ces strates qui sont compliquées. On va regarder ce qui se passe avec l'interface ici. Maintenant, on est dans un milieu qui est très grand au-dessus. On va poser la couche qui est ici de dimension 3. Puis, cette couche, maintenant, au-dessus de cette couche, on retrouve des densités plus fortes. Donc, le magma là est léger, lourd, léger. Voilà, la tête de lac, on va se pointer son nez ici. On va regarder ce qui se passe à l'interface. Donc là, il monte sa vitesse standard, avec sa structure qu'on connaît bien maintenant, elle est large et la queue fine. Maintenant, il va atteindre cette interface. Donc là, il grossit, parce qu'il a du mal à passer. Là, il est lourd maintenant, donc il a du mal à passer. Il est mal. Maintenant, il a réussi à pénétrer au-dessus. Et là, il va reprendre son chemin. Vous voyez que c'est important, c'est étant donné qu'il y a un énorme nez qui s'est produit ici. En fait, lorsqu'il l'estompage au-dessus, bien évidemment, sa vitesse va changer parce qu'en fait, c'est compliqué ce qui se passe ici. Et j'ai un réservoir de magma qui est là qui va se vider au profit de la partie superficielle. Donc, je vais avoir un phénomène de gonflement-dégonflement. Donc, on va regarder maintenant ce qui se passe à l'interface en utilisant le même raisonnement. Et on va regarder la pression, comment elle s'est. Donc, la pression, je la calcule comme ça. Donc, celui qui est hydrostatique, donc c'est la même pression, je la calcule du côté haut et du côté bas, avec les deux surfaces de densité. Vous voyez que le rapport entre ces deux pressions va se déduire directement du rapport des densités. Et ce qui est important, c'est que cette pression-là va devenir très forte, puisque j'ai accumulé du magma à l'interface, donc j'ai sans arrêt poussé les bords fissures, et cette pression-là peut dépasser la rigidité des roches, et donc ça va casser ces roches. Donc ça, dans ce cas-là, je vais fracturer les roches, et au lieu de continuer à propager verticalement, je vais ajouter une fissure horizontale. C'est la formation massive. Donc je vous montre ici ce qui se produit pour calculer ça. Donc, comme vous l'avez vu, la pression que je peux accumuler, c'est liée à la hauteur du dague au-dessus de l'interface. Donc, ça veut dire que pour que j'atteigne des pressions importantes, il faut que le dague pénètre dans des roches en très très grande épaisseur. Donc, ce que vous avez ici, c'est l'épaisseur qui est nécessaire pour que la fracturation se produise dans l'autre direction, en fonction du contraste densité entre le magma et les roches en descente. Donc, ici, le contraste que vous aurez est plus dense que les roches en descente. Et ça, c'est le seuil de fracturation pour les roches qui est mal connu. Donc, on en a des idées. J'ai montré donc des courbes pour les relations entre ces deux variables. Donc, le contraste densité entre le magma et les roches en descente, la hauteur que la colonne de magma doit avoir pour atteindre ce seuil de fracturation. J'ai tracé ça pour quatre types de résistance à la fracturation. Vous voyez ici. Les valeurs qu'on estime, c'est fait en laboratoire, donc à petite échelle, c'est pas toujours représentatif. Mais les valeurs qu'on a sont de cet ordre-là. Vous voyez que tu peux me focaliser sur ces courbes-là. Et puis, ce que je connais le mieux, c'est ça, c'est le contraste densité. Donc, j'ai pris des valeurs qui sont typiques pour ce type de roche, ça va de 100 à 400. Et vous voyez que ça, c'est une fois que je vais chercher maintenant le domaine pour lequel j'atteins ces seuils de fracturation, vous voyez qu'il faut que j'ai une hauteur entre 1 km et 10 km. Donc, ça veut dire que pour former des cils, il faut que mon dike rencontre des roches. Moins dense que lui, sur des épaisseurs kilométriques. Donc c'est la condition pour laquelle je vais former les cibles. L'autre chose que j'ai appris, c'est que les cibles se forment aux interfaces, et je vais montrer cette photographie, les cartes ici, le cible s'est formé à l'interface, vous voyez bien que les roches ici ne sont pas du tout les mêmes que les roches au-dessus. Donc ça, c'est des séquences, les joueurs, c'est des séquences de marron, de l'argile, etc. Et puis ici, c'est des calcaires un peu plus massifs. Donc on est bien à l'injection qui se produit à l'interface. Alors voir la transition entre un dike et un cible, c'est très difficile. Il y a un cas où ça se voit à peu près, c'est dans l'Utah. Ce que vous voyez ici, c'est ça a été les roches et la stratification dans ce sens-là. Donc il faut imaginer qu'il faut tourner cette photographie pour remettre ça en stratification horizontale. Ce que vous avez ici, c'est un dike. Voilà. Et puis il atteint l'interface ici et il a engendré ce total qui était un cible, parce que ça c'était à l'horizontale. Avec le dike, il a un peu gidé, il a eu un peu de mal là. Ça, le calcul, évidemment, un peu plus de mal à l'attacher. Vous avez ici un cas où le dike est démonté, traversant la fracturation et un jeté de cible. Je connais qu'un seul exemple, ça a été comme ça. Un autre, on pourra pas mal faire en faire un, mais c'est tout. Donc voilà. Donc, je vous ai montré que pour former des réservoirs, pour former des cibles, il faut avoir des épaisseurs assez importantes de roche. Ça, c'est pas toujours le cas, donc on va voir plus tard comment ce qu'on fait. Je sais que je suis en des réservoirs magnétiques, on va voir qu'il peut y avoir quelque chose de plus qui se produit dans la nature qui me permet de faire des réservoirs. Bon, en principe, c'est possible, mais c'est pas facile d'avoir jusqu'à 5-6 km de roche qui sont moins denses que moi. Donc, je vais vous montrer maintenant quelques photos parce qu'on a suivi les équations. Je vous montrais hier soir, mais c'est fascinant. Mais il y a des dikes qui, puisqu'ils rencontrent des roches qui sont moins denses qu'eux, ils ont du mal à pénétrer. Et puis, il y en a certains qui n'y arrivent pas. Donc, c'est un des rares exemples où ça a été vu. Vous avez ici une fissure qui est ouverte dans le sol. Ça, c'est du basalte. C'est une fonte minérale Mongo il y a quelques années. Magnifique photo. Donc, le dike a bien fracturé la roche, mais il est bien cassé, il n'y a pas de problème. Et litre, donc il n'a pas fait de ruche.
Donc
ça, ça a traversé une banane raie. Donc le dyke, quand il arrive près de la surface, le dyke ouvre les roches, donc il met les roches en tension, donc il fabrique des petits, pour du jeu, des petits gravels, et voilà ce qui est sur les centaines d'œufs. Le dyke, il enfouit, si vous creusez un peu là, vous verrez sa tête avec ce bataille, vous avez pas tout là. Donc voilà, le dyke, pareil. Je vous montrerai d'autres qui sont arrivés. Et je vous demande de vous rappeler que les dalles qui faisaient l'ordre du mètre d'épaisseur, ils montent tranquillement. Mais lorsqu'ils rencontrent des roches qui sont moins denses qu'eux, ils grossissent. Parce que ce qui se produit, c'est que comme la poussée d'Archimède est plus bas pour les propulser, et bien toute la force d'Archimède, elle est dépensée à ouvrir les roches plutôt qu'à faire avancer le magma. Donc le dalle qui gonfle. Donc vous allez avoir plutôt que l'ordre du mètre qui est l'épaisseur caratacite d'un dalle dans les roches normales, pour qu'il arrive dans ces horizons superficiels qui sont moins dense que lui, bah, il va grossir, il va atteindre des épaisseurs plus importantes. Donc la marque de ça, c'est le grossissement de taille. Typiquement, dans ce cas-là, le taille n'a du mal à avancer, donc ça donne ce type d'éruption dans lequel il n'y arrive pas. Donc, je vais vous montrer un cas spectaculaire qui s'est produit en Éthiopie, il y a 2005. Donc vous savez, ici, ça c'est une vue de l'océan Indien, le golfe d'Aden, et puis ici, la mer Rouge. Donc c'est une mer d'ouverture. Il y a l'expansion du fond samedi ici. Donc ici, j'ai une tension avec la région qui est en train de s'ouvrir. Il y a toutes les mises en tension. Et là, il y a ce qu'on appelle du rifting, c'est-à-dire que l'écorce terrestre et la lithosphère sont en train d'être étirées. Et ça s'est fait en partie sous l'action de magma. Donc on va voir un des épisodes. Donc je vous montre cet épisode-là. Ça, c'est une photographie de la Golfe d'Aden. Chaque fois que je pense au Golfe d'Aden, je vais pas m'empêcher de penser à un roman de Polynésie, ça n'a rien. Voilà. Donc ça c'est la mer Rouge, et ça c'est, je vais vous montrer un zoom sur cette partie-là, où il y a eu un épisode de fracturation par des dalles, et les dalles sont tout juste arrivées par la surface, c'est pas tout à fait. Donc c'est l'épisode de Dabaou, en 2005, qui a été précédé par de la sismicité, donc la fusion. C'est une photographie du haut, donc voilà la région. Ici, regardez les dimensions. On ne voit pas les dimensions. Voilà, un degré, c'est 100 km. Donc ça, c'est un truc qui fait 1 degré 100 km, ça fait 60 km. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un bail qui a ouvert, mais qui est arrivé simplement à la surface à une extrémité et qui a ouvert le sol sur 60 km de large. Voilà la fracture. On voit ici, c'est des petites zones pour l'agriculture. Vous allez voir, ça conserve des choses, c'est quelque chose qui fait à peu près une quinzaine de mètres de diamètre. Donc voilà la fissure, on va s'engager à travers 160 km. Et de haut, encore une fois, cette structure que vous voyez là, cette structure-là, c'est une quinzaine de mètres. La fissure vue de l'avion, et c'est pas la belle fissure. Et après, de ma main, il est sorti. C'est une sortie qui est à l'extrémité nord de la fissure. On voit ici ce dépôt grisâtre. C'est un dépôt pyroclastique, une petite éruption.
Ça ne marche pas le pantalon.
Voilà. Donc ici, c'est bien un magma, hein, il est bien arrivé, il a fait une petite éruption ici. Alors voilà cette éruption, on voit bien que c'était bien une éruption de type fissurale, fissure, ce petit, mais c'est dévolu, il a fait ridicule. Et voilà l'ouverture de taille qui ressemble à ce qu'il est montré dans la panamerie du Miragongo. Vous suivez ça sur 60 km. C'est tout à fait acceptable. Voilà, encore une fois, ça c'est quelques mètres de profondeur, c'est cette structure en ouverture, en gravelle, en geologue. Donc on a pu modéliser la déformation. Ce que je montre ici, c'est la déformation qui a été modélisée par des techniques d'interférométrie. Donc voilà la trajectoire du Nike. Vous avez l'échelle verticale ici, c'est 10 km. Ça, c'est une échelle de largeur, et de 0 à 10 mètres. Vous voyez que ici, vous avez, c'est bien très joli, parce que ce que vous voyez ici, c'est que, regardez cette section-là, vous avez très clairement le nez du Nike, hein, où la largeur atteint presque 10 mètres. C'est à peu près les valeurs que je vous avais annoncées. Donc, ceci, c'est bien la marque d'un Nike qui a eu du mal à passer à travers les roches qui sont moins denses que lui. Donc, il a gonflé, et il a atteint des épaisseurs beaucoup plus grandes que les épaisseurs classiques qu'il a, qui sont de l'ordre du mètre. Ça fait que le temps ici c'est encore plus beau. Donc les conclusions de cette première partie, c'est un, que la stratification dans la croûte affecte très nettement la propagation des dalles, qu'il faut en tenir compte, donc il faut bien connaître les densités, si on ne connaît pas les densités, on ne peut pas faire un diagnostic. Deux, il y a des phénomènes d'inflation-déflation qui se produisent uniquement lorsque les dalles pénètrent des rondes de densité différentes. Ça, c'est important lorsque vous surveillez un volcan. C'est qu'en général, pour le volcanoïde de base, l'inflation, ça veut dire que le magma est en train de remplir une poche, ce qui est exact. Et puis la déflation, c'est que la poche se vide, ok? Mais c'est pas un statique, c'est pas une poche, c'est en fait la tête de main du lac. Donc il faut faire attention à les phénomènes. Il peut y avoir des phénomènes de déflation qui sont en fait non pas des phénomènes de vidange dans la réservoir, mais simplement le lac qui est en train de continuer à se dégager au-delà de sa zone d'accumulation. Il peut y avoir des grandes surpressions qui se développent à la base de strates qui sont de densité faible, d'où des formations de cils. Voilà. Et il faut avoir des accumulations de grande densité faible qui sont sur des kilomètres pour que ça se produise.
Donc je fais une petite pause ici, et on va reprendre, je ne fais pas de pause pour vous, on va dire que voilà. Donc ces calculs sont simplifiés, et donc la question, et on a appris pas mal de choses, maintenant ce que je vais vous montrer, c'est qu'avoir fait ce type de calcul, c'est important pour comprendre des phénomènes qui sont intuitifs. Je vais vous montrer l'effet des volatiles. L'idée simple, c'est que s'il n'y a pas de volatiles, vous avez grosso modo en profondeur quelque chose qui fragmente, et je vais montrer ça au début de l'introduction de l'information. Et quand c'est fragmenté, ben, ce que vous avez, c'est un gaz qui s'écoule. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un gaz? Ben, ça a une viscosité très faible. La perte de charge égale au moyen très faible. Et donc, vous attendez à ce que ça passe vite. Un gaz, ça va s'écouler plus qu'un liquide. On peut dire que c'est tellement important qu'il se produit. Donc, je vais vous montrer comment ça se fait. Je vais vous montrer des exemples où, si on ne fait pas attention à ce type de phénomène, on peut produire un diagnostic sur les conditions qui sont complètement nouvelles. Donc voilà ce qui se passe lorsque vous avez des volatiles en solution de magma. Je vous ai montré ça de toute manière. Ça, c'est la densité. Je prends 5% d'eau. Donc ça, c'est la pression. Donc j'ai pris un magma qui peut évoluer. C'est pour donner un ordre de grandeur. Donc ça, c'est grosso modo une acide. Et puis, à forte pression de volatiles en solution, lorsque vous avez des faibles pressions, évidemment, le gaz prend en plus de volume. Et donc, ça fait baisser la densité du mélange. Ça contient le volume, parce que là, évidemment, que le système se dilate. Il y a deux cours ici pour le type des poissons d'état, mais pas un autre. Donc, je vais vous montrer le raisonnement simple, c'est de dire, enfin, si j'ai des volatiles, ça va vite, si j'ai pas de volatiles, ça va lentement. Je vous montre deux exemples. Un magma qui pauvre en volatiles, les basaltes sont en volatiles. On va reprendre cette bonne vieille évolution de la phase en 98, qui a 0,8% d'eau là-dedans. Là, c'était quand c'est réactif. Ce qui m'intéresse, c'est la dernière phase lorsqu'on se rapproche de la surface. Vous voyez que cette dernière phase se note par une accélération très nette. Hein. Entre le moment où vous avez atteint ici le plein niveau de la mer, et ça, ici, il y a à peu près un jour pour franchir les 3 km, 4 km qui séparaient la source ici, le réservoir de la surface. Et puis maintenant, sur les deux derniers kilomètres, c'est allé très vite en une heure ou deux. Donc évidemment, faire un diagnostic sur le temps d'éruption, ce serait. Je vais prendre le. C'est aussi simple. De base, vous prenez cette séquence, vous dites, ben voilà, c'est la éruption, on va sortir là dans 2-3 jours. Alors, dans 2-3 jours, c'est pas très grave. Mais en fait, si vous avez fait ça, de toute façon, vous surveillez un peu de 2 jours. Hein, parce qu'en fait, c'est sorti en une heure. Je vais donner un exemple maintenant d'un magma qui est riche en volatiles. Bon, ça fait 1980, 5% d'eau. Malheureusement, on n'avait pas des réseaux de sismomètres aussi précis que ceux du temps de la fournaise. Mais on a une bonne idée de la séquence pré-éruptive. Donc voilà, je vous montre ce qu'on sait. Donc ça, c'est l'éruption du mai. Ça a commencé le 15 mars par des séismes profonds. Dans quelques jours, on a eu cette zone-là qui a été en fait mise en action en sismiquement. On en a localisé très précisément un, ici, on a eu 4, un jour après cette séisme. Donc vous voyez que la séisme a migré très rapidement, trop rapidement d'ailleurs, compte tenu du réseau, pour qu'on puisse se faire mieux que ça. Et puis quelques jours après, on s'est retrouvé avec de la dégradation, je vous montre des photographies de la surface, des séismes superficiels, puis des petites
les éruptions phréatiques. Donc, les éruptions phréatiques, c'est provoqué par le magma qui est chaud, qui rencontre les roches gorgées d'eau, et qui fait dilater de manière catastrophique la roche saturée d'eau. Donc, vous voyez qu'il y a quelques jours pour franchir, grosso modo, 10 km. Vous voyez que les volatiles, c'est bien, ça ravise. Vous remarquez que c'est à peu près le même genre de temps que le basalte du temps de fournaise. Mais après, le magma fait attendre de 10 km pour qu'il y ait le champ. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, on a observé des choses. Vous voyez, le flanc de la montagne, vous voyez, quelque chose de pas normal. Ça, c'est un coup de boum. En fait, le flanc de la montagne s'est déformé. Il s'est déformé parce qu'il y a du magma qui s'accumulait. Et tout simplement, au lieu de propager vers le haut, eh bien, il ouvrait son encaissant. Et donc, faisait un gros gonflement. Voilà ce gonflement quelques jours avant l'éruption. Et bien, c'est tout à fait normal. Ce qui est triste ici, c'est que ce gonflement se fait sur le flanc de la montagne. Pour discuter de raison, ça c'est Hugh Johnson qui était un volcanologue qui a regardé ça. Comme il était préoccupé pour mesurer précisément ce dôme, il s'est mis dans l'axe, alors il est 110 cm, 180. Vous voyez que comme cette structure ici, vous avez le dôme, ça c'est le magma qui est dessous, hein, le magma qui était à même 1 km de profondeur. Et ça à l'époque-là, on avait donc des notions aussi simples que ça. Et donc toute cette zone de magma ici est contre la montagne derrière qui est l'exoplanète qui est bien plus. Résistant. Donc, ce que vous avez ici, c'est que si vous faites exploser ça, l'explosion va se diriger loin du mur. Et le mur ici est rigide, ici se trouvait devant la gueule du canon. Et c'est pour ça que quand l'éruption a lieu, il a annoncé à la radio qu'il a eu l'éruption, qu'il s'est reparti.
Hein? Annoncé à la radio quoi?
C'est-à-dire que l'éruption a démarré, qu'il disait adieu. Donc voilà, donc, la séquence pour ce magma riche en volatiles, c'est que ça s'est arrêté. Vous voyez que c'est exactement le contraire de ce qu'on pensait, c'est que pour le magma riche en volatiles, eh bien, ça s'arrête à la source. Je vous montre que c'est normal, parce qu'on considère ce qui se passe dans une fissure. Donc je vous rappelle qu'il se produit lorsqu'il y a du gaz. Là, vous avez du gaz, ça se dilate. Mais lorsqu'il y a beaucoup de gaz, fragmenté, la première chose qui se produit, c'est que puisque vous dilatez, eh bien, le flux de masse est constant. Le flux de masse est le flux volumique plus la densité. Puisque la densité baisse, le flux volumique augmente. Le flux volumique, ça veut dire qu'il va falloir trouver la place pour accommoder tout ce volume. Donc, soit vous l'éjectez vers la surface, soit vous le stockez sous la forme des grosses accumulations. La deuxième chose qui se produit, c'est que si vous avez suffisamment de gaz, vous allez fragmenter. Vous allez non plus avoir un liquide visqueux qui se propage, vous allez avoir un gaz. Un gaz dense, mais un gaz. Donc, on traite ça comme on appelle un dusty gas, c'est-à-dire un gaz qui est faible, mais qui a une densité importante. Donc, je reprends l'équation maintenant que j'ai renversée. C'est l'équation où je traite la pression plastique, parce que ce qui m'intéresse de savoir, c'est que moi, la surface que je mesure, c'est la déformation. Donc, c'est la pression plastique que je considère ici. Je la réécris de manière différente. Voilà la pression plastique, et la pression plastique Z. Oui, il y a deux termes, mais il y a la force marginale. Donc, voici, quand c'est dérangé, je prends le problème, c'est le magma. Si le magma est léger, ça c'est positif. Donc, ça veut dire que ça contribue à le magma qui est léger, bah, il tend à pousser proche, il tend à gonfler. Et puis, il y a évidemment le flux de magma qui tend à faire diminuer la pression plastique parce que au lieu de pousser, je fais le propulseur vers le haut. Vous voyez que c'est le propulseur plastique qui est ici. Donc il y a deux termes, la force marginale qui tend à gonfler et le débit de magma qui tend à dégonfler puisque quand je vide la poche, je suis en train d'essayer de gonfler. Donc c'est l'équilibre entre ces deux phénomènes contradictoires que l'on va considérer. Donc il faut considérer non pas la vitesse, mais il faut considérer aussi la déformation. Donc le raisonnement simpliste qui dit de dire si j'ai du gaz, ça va aller vite, ben, c'est un mauvais raisonnement parce qu'il faut aussi traiter la déformation, hein, qui fait partie du même problème. On ne peut pas dire que ça va aller vite parce que ce n'est pas le canal que je l'ai décrit au début, c'est une fissure. Donc la fissure, je dois considérer comment elle s'ouvre, sa fissure. Sa région n'est pas fixée. Donc si j'ai la densité qui baisse, ben, j'ai deux manières d'accommoder le flux de volume qui est plus important. Soit j'accélère, soit je gonfle. Donc la pression de magma, elle peut faire deux choses, elle peut déformer et donc peut faire le gonflement, ou elle peut faire l'accélération. C'est la pression de monter précisément. Donc voilà les deux possibilités. Dans un cas, je vais avoir accélération, je peux même avoir, si j'accélère très fort, je peux même faire que le bike devient plus mince. Inversement, si je n'accélère pas, je vais gonfler. Et puis je vais évidemment laisser le. Donc on pense l'équation, on voit que le fixe et le flux volumique. Et maintenant on va considérer les deux cas, soit je fragmente, soit je ne fragmente pas. Soit je ne fragmente pas, c'est le cas du piton de la fournaise, je n'ai pas assez de gaz, sauf vraiment juste à un moment de la surface. Dans la trois quarts de l'ascension, je n'ai pas fragmenté, donc ce que j'ai c'est un liquide visqueux qui s'écoule. C'est un liquide qui est chargé plus de gaz, mais c'est quand même un liquide visqueux, puisque c'est la partie continue qui détermine la volume, donc c'est la glande du magma qui détermine la déformation du mélange. Voilà la hauteur de vague, on va prendre R1, toujours la même échelle que hauteur. Ça, c'est des kilomètres. Je montre ce qui se passe, c'est la pression de l'état avec 0,8% d'eau. Voilà votre bike, je montre ça prend sa forme. Reste, puisque c'est un régime permanent dessous, ben, ça garde sa forme. Mais quand il développe ses volatiles, en fait, il a un cycle. Et puis, il a la forme d'un cycle en haut. En fait, ce bike-là, il a plutôt un cycle. Pourquoi? Parce qu'il a accéléré. Donc voilà la. Propagation du bike en fonction de la profondeur, 0 sur la surface. Voilà le. Alors, ça, c'est Gaspo, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de gaz. Et là, il y a 0,8% et là, il se met à accélérer. Donc, puisqu'il accélère, et là, évidemment, il le gonfle pas.
Donc, ça, c'est ce qui s'est passé au piton de la fournaise.
Donc, pas de fragmentation. J'accélère, il faut bien que j'accommode le flux volumique plus important, et donc je viens ainsi. Maintenant, si je fragmente, ben, cette partie-là, de toute façon, multipliant vers zéro, donc ça devient très faible, puisque c'est un gaz, maintenant qui est dans mon milieu, ben, j'ai pas besoin de perte de charge pour faire avancer ce truc-là, ça contraste très rapidement. Et donc ça veut dire que ce terme-là, qui devient totalement dominant, que toute la pression d'un corps, ben, elle sert à déformer les roches. Je vous montre ce qui va se passer lorsque je fragmente. Donc voilà ce gonfle de bike. Donc, on l'a calculé pour les mises à l'échelle, c'est fait une fois pour toutes. Donc après, bah, c'est plus 1, c'est 0,73, je ne sais pas quoi. Encore une fois, il y a une différence entre ces échelles-là et ces échelles-là. Donc ça, c'est mètre métrique, et ça, c'est dizaine, enfin, kilométrique. Donc voilà ce gonfle de bike avec son nez. Et maintenant, il s'est mis à fragmenter. Donc vous voyez que ce qui se passe. Dans le nez, j'ai une partie qui est gazeuse. Cette partie gazeuse, elle accélère. Certes, parce que c'est du gaz, donc elle va se séparer un petit peu. Et elle ne peut pas aller très loin, parce que comme elle est bourrée de gaz, elle ne va pas gonfler. Voilà. Donc vous avez ici le phénomène de gonflement, un très caractéristique qui se produit. Et évidemment, ça conduit à une décélération. Donc voilà, je vous montre un exemple. Un exemple. Donc ça, c'est là. Profondeur normalisée, donc ça c'est géométrique, 1 c'est 1 km, et puis le temps, donc ici le temps, ben, vous l'avez, c'est des temps qui sont mesurés ici en plusieurs jours. Voilà, je calcule sans fragmentation, on voit le gars qui suit son bloc de chemin, il continue à monter, pas de platine. Quand je fragmente, ben, il y a une petite phase d'accélération au début parce que le nez se sépare en deux, la propre partie de gaz se sépare, mais très rapidement, ben, ce gaz-là, ben, il est plutôt que d'avancer, ben, il confond. Et donc, vous voyez, maintenant, la vitesse ne remplace plus. Et au lieu d'avoir un magma qui va vite vers la surface, vous avez un magma qui gonfle. Donc, dans ce cas-là, ben, c'est l'autre scénario. Vous gonflez et vous n'avancez pas.
Voilà.
Donc, j'en ai fini pour cette partie-là. Donc, c'est pour vous montrer que je vais montrer trois choses importantes. Je vais montrer que les fractures hydrauliques, ça fait intervenir les propriétés des roches élastiques. Ça fait intervenir aussi la différence de densité entre magma et roche en descente. Je vous ai montré que vous pouvez expliquer beaucoup de choses. Je vous ai montré que ça permettait de comprendre dans quelles conditions je pouvais former des cils, donc dans quelles conditions je pouvais injecter quelqu'un horizontalement. Et donc ça, c'est le proto-réservoir qui m'intéresse. Et puis, je vous ai montré les implications que ça avait lorsqu'on a des phases pré-éruptives dans lesquelles je suis en train de voir le magma monter. Vous avez vu que c'est pas intuitif si vous tenez par compte du fait que des traités, non seulement du fait que Weimar peut voyager à Rome, il peut aussi défendre les rochers en descente. Je vous ai montré que quand il est volatile, bah, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça avance pas plus vite, ça gonfle.
De l'énergie dans un système qui est déjà en train de s'ouvrir et de vouloir hériter, et pourquoi vous faites pas, vous n'avez pas des ondes sismiques vous-même pour les récupérer, ou est-ce que naturellement il est fait, parce que normalement vous pouvez sonder la matière et la densité par la vitesse du son. Donc qu'est-ce qui nous manque là?
Alors le son, si tu le fais, si c'est du son pété méchant, enfin, c'est bon, ça dépend de la fréquence du travail. À haute fréquence, c'est informé en quelques mètres, donc ça se croche très mal. Donc tu passes dans la cam des fréquences sismiques, où là, la résolution spatiale, c'est kilométrique. C'est ça le problème de l'étude de la la résolution de la, des techniques d'imagerie de sismique sont c'est kilométrique. Donc tu vois pas du tout. Bah, tu as des fréquences qui sont de quelques hertz, des vitesses de propagation qui sont des kilomètres par seconde. Voilà, c'est kilométrique la résolution.
Ah oui. Ouais. Ça, c'est dommage parce que nous, en faisant du temps de distance, je ne parle pas trop de ça, et dans ce que n'était pas le but, mais en faisant du temps de distance, en changeant la taille de l'anneau, on arrive à avoir des résolutions qui varient assez, quoi, tu vois. Et donc, mais bon, peut-être qu'effectivement, il y a une borne minimale. Quoi.
Alors, tu peux, ce qu'on fait, c'est les techniques les plus précises, c'est ce qu'on appelle les techniques de doublet. Dans le cas des résolutions mécaniques, ça marche parce que tu as, pour des raisons d'ailleurs qui sont pas très claires, tu as des zones qui sont soumises à des petites fractures répétées. C'est la même zone et c'est la même type de fracture. Donc, tu as la même forme d'onde. Et donc, une fois que tu sais, c'est la même forme d'onde que tu as trouvée, tu débarques une autre partie du bruit, tu vas pas relocaliser tes sources, donc tu vas avoir un enregistrement dans l'espace de cette zone qui est en train de tomber. Donc ça permet de localiser un émetteur de signaux. Et tu peux atteindre la meilleure pression que je connais, c'est 200 mètres. Et ça, c'est vraiment ce qu'on peut faire de mieux. C'est une sorte de technique d'interférométrie que tu vas comparer. Et donc, tu atteins 200 mètres de pression.
C'est vrai, c'est toutes les échelles de ce que tu nous as dit, c'est souvent de cet ordre-là.
C'est ça.
Du mal à. D'accord.
Mais j'insiste là-dessus, ça, avec ça, moi, c'est comme ça que je pense qu'on aura les meilleures informations. Parce que le dingue, je le vois arriver, et donc si je localise les choses, je sais, ça me suffira, si j'ai des séquences passées, je sais que j'ai une interface ici, j'en connais grosso modo les propriétés, donc c'est pour ça qu'ils sont potentiels. Je pense qu'avec ça, parce que j'ai pas de technique géophysique à l'heure actuelle qui permettrait d'atteindre ce genre de précision. Ça revient en fait à alléger le liquide et en allégeant, vous le dilatez, quand il se dilate, il ne peut pas descendre vers le bas, il monte vers le haut. Donc ça, c'est un effet qu'on modélise. Je pense que vous modélisez l'équation d'état avec la densité qui baisse, c'est exactement ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il faut même que j'alimente, une réduction, ça dure des années, donc j'ai une source. Mais à partir de la source, ce que je rajoute, c'est la dilatation, et on est vers le dessus, qui conduit à une accélération, parce que j'ai ce débit volumique maintenant qui va augmenter. Vous avez de manière statique dans votre expérience de carbone dessous, moi je suis en dynamique dans laquelle j'ai mon magma qui monte, il monte à sa vitesse 1, maintenant quand je dilate, si je dilate à facteur 2, le sommet va monter à la vitesse 2. Donc j'ai la partie superficielle qui s'est dilatée et qui monte beaucoup plus vite que la partie inférieure qui est à 115. Vous voyez pas ce qui se passe? Donc le débit de carbone dessous, c'est statique. On a une flux de carbone dessous et puis c'est pas. Donc, si vous voulez parler en termes de dynamique, ça se reviendrait à dire, j'ai mon réservoir, mais brutalement pour une raison que je ne précise pas, je vais commencer à faire dilater le gaz dans mon carbone de soude.
Avec le cabinet, il y a une réaction chimique, mais là, ce n'est pas le cas.
Non, ben, les termes de source que vous avez fait, c'est créer du gaz. Dans le cas du magma, de toute façon, effectivement, il faut faire apparaître des bulles de gaz. Donc on sait que vous pouvez le faire apparaître de manière statique, parce que des gaz sont sous. Le problème de nucléation des bulles de gaz, c'est un problème très compliqué, qui n'est pas encore résolu parfaitement. Donc vous pouvez avoir un magma qui est dans la sursaturée. Donc en fait, les bulles de gaz sont encore en solution. Mais en principe, vous êtes au-dessus du seuil de solubilité, vous avez plus de volatiles en solution, vous pouvez en principe tenir la pression dans laquelle vous êtes. Et si jamais vous êtes sûr que ça, vous allez faire apparaître des bulles. C'est ce que vous pouvez voir dans votre champagne, hein. Vous regardez votre verre de champagne, mais les bulles ne viennent pas d'apparaître. Votre liquide est sursaturé. Parce qu'à la pression atmosphérique, en fait, le gaz reste en solution parce qu'il a du mal à nucléer. Et votre champagne, si vous regardez bien, la nucléation se fait au bord du verre. Le verre est irrégulier. Et c'est très connu aussi qu'il ne faut surtout pas avoir du rouge à lèvres lorsqu'on boit du champagne, parce que quand vous mettez du rouge à lèvres sur les bords de votre verre, vous supprimez les cycles de nucléation et la beauté du champagne avec ses bulles disparaît. Donc ce que vous avez ici, c'est le phénomène de nucléation qui est favorisé par les aigus arrivés de votre verre. Donc vous avez un liquide qui est sursaturé. Donc en fait, le bicarbonate de soude, c'est une manière de représenter ces phénomènes. Mais ça ne se produit pas dans les magmas. La cause principale de dilatation, c'est la décompression. Donc il faut décomprimer, donc il faut faire sortir des magmas de son réservoir. Alors il y a des gens qui sont préoccupés, par exemple, de savoir si jamais j'ai un réservoir qui est proche de la sursaturation. Si j'ai un film qui est assez intéressant, je ne sais pas si je vais réussir à l'expliquer simplement. Supposez qu'il y a déjà un petit peu de gaz dedans, parce que vous êtes toujours vous êtes près du seuil, donc il y a un petit peu de gaz. Si vous avez une onde qui passe, vous allez faire vibrer vos bulles, et on peut montrer, ça c'est un phénomène assez intéressant, si vous avez vibré des bulles, ça va vous rendre la bulle de gaz, pour qu'elle croisse, il faut d'une part qu'elle pompe les molécules de volatiles qui sont encore dans le liquide, et puis il faut qu'elle se dilate. Pour celui-là, ils sont dans un liquide visqueux, donc il y a une limite à ça, si vous avez un truc qui est rigide, la bulle ne va pas se dilater. Et prenons le cas le plus intéressant, qui est le cas où simplement vous devez pomper les molécules de volatiles qui sont encore en solution dans le liquide. C'est par diffusion, vous pouvez aller chercher dans le liquide loin de la surface, et en fait la vibration de la bulle, on peut montrer que ça donne une diffusion qui est accélérée. Donc une onde sismique qui passe au travers d'un réservoir, ça peut vous donner une croissance anormalement rapide de bulles de gaz. Donc il y a des phénomènes comme ça. Quand vous faites le calcul, c'est un très beau phénomène, et ça vous conduit à faire un petit peu par deux la vitesse de croissance des bulles, donc c'est pas significatif à l'échelle d'une éruption, mais c'est des phénomènes à vivre. Donc il y a peut-être d'autres effets auxquels on n'a pas encore pensé. Il faut bien voir que vous êtes toujours dans un système dans la nature où vous êtes l'hypothèse d'équilibre thermodynamique, qui est une hypothèse très intéressante, mais elle est rarement valable. Après, vous rentrez dans la cinétique. Les cinétiques sont toujours pas faciles à vérifier. Les cinétiques de croissance, les cinétiques de nucléation, tous ces fameux cinétiques sont pas très faciles à étudier. Dans beaucoup de cas, on n'a pas besoin de faire un palace. Le calcul, je vous montre, ça, l'idée de tout le modèle qu'on fait, c'est. Contrairement à la physique qui est parfaitement posée ici, ou la physique est posée, mais je l'ai fait dans des scènes plus simples. L'idée, c'est pas de dire j'ai calculé exactement ce qui se produit au moment synthèse, ce serait d'abord impossible parce que j'ai simplifié le problème avec un milieu élastique, etc. L'idée, c'est de comprendre certains phénomènes, et puis après, d'aller déployer les réseaux de mesure qui vont permettre de valider au moins les hypothèses qu'on a faites sur la base de ces données. Je n'ai pas, malheureusement, à l'heure actuelle, la possibilité de faire un modèle exact, parce que de toute façon, je n'ai pas l'idée des volumes, je n'ai pas l'idée de même des propriétés exactes des roches qui sont dans le. Donc on n'est pas à une simulation précise, aussi précise par exemple que ce que peut faire Sacha, moi je n'en suis pas là, parce que je vous ai montré, hein, les densités, je les connais très mal. Je pense qu'on connaît mieux les densités à l'intérieur du Soleil, j'ai l'équation bêta du Soleil qui est certainement mieux connue que la pôle prouvée dans le système terrestre.
C'est assez incroyable, mais on connaît presque mieux le Soleil que la Terre.
Que il n'y a pas longtemps, on connaissait mieux la topographie de Vénus que la topographie de la Terre. Le problème de la Terre, c'est que les fonds marins, c'est 60% de la surface, puis on avait des topographies qui sont même dans certains points, ce n'est pas encore précis. Vénus, on a pu passer à travers l'atmosphère, on avait une topographie de Vénus qui était plus précise que la topographie, comme le BA. On connaissait mieux la surface de Vénus que la surface. La réponse est non. Je l'ai dit hier soir qu'en fait ça coûte pas cher, mais un 6 mètres maintenant, 6 mètres, vous avez pour détecter ça. Alors, forme un séisme. Si vous mettez le problème des séismomètres, c'est que les séismes volcaniques, c'est de petite magnitude, donc vous ne les voyez pas loin sur votre foule. Si vous avez trois séismes d'appareil sur un volcan, il ne faut pas se planter. Si c'est sur la mauvaise bouche de l'optique que vous voulez visiter, vous ne verrez pas. Mais avec un peu de connaissance du volcan, vous allez y arriver. Et en fait, ça ne coûte pas cher. Un sirène, maintenant, c'est quelques milliers d'euros. Donc ça suffit. Il faut évidemment l'installer. Il faut avoir qu'on comprenne les valeurs des choses. Mais en fait, ce que je vous ai montré dans le cadre du programme hier soir, c'est que trois sismologues, le volcanologue et puis trois quatre sismologues, ça suffit. Ce n'est pas cher. Et dans beaucoup de cas, c'est pas instrumenté. Alors, il y a la technique démocratique, c'est la technique du satellite, et malheureusement, on n'a jamais réussi à pousser ça, parce qu'il y a la déformation. La déformation, maintenant, elle est à faire plus haut de l'espace, c'est toujours avec le satellite sans problème, c'est beaucoup mieux, parce qu'un satellite, c'est démocratique, vous pouvez voir tout le globe. Donc, il faut simplement calculer la trajectoire du satellite de manière à ce qu'il revienne sur les volcans actifs régulièrement, parce que s'il revient tous les 6 ans, pour essayer de rater pas mal d'évolution. Mais il y a des ordres qu'on a calculés, vous pouvez passer sur au même orange, les 24 heures quasiment, et vous pouvez voir tout le globe quasiment en 24 heures avec un satellite qui est bien dissolu, je ne me souviens plus de l'orbite exacte. Et donc en fait, la première solution, ce serait les satellites. Parce que la déformation, on l'a fait.
Ça va arriver ?
Écoutez, on a laissé des projets qui ont été posés, mais les agences spatiales, apparemment, peuvent faire envoyer des satellites, ou je ne vais pas commenter sur. Je peux envoyer des hommes dans l'espace.
Les sismomètres, là, ils sont souvent un rouleau de papier avec une aiguille, mais si on veut dire, on digitalise pas tout ça avec une connexion internet, et on n'a pas besoin finalement même de. On met plein de bornes partout qui seraient très compactes. Et...
Alors maintenant, le sismomètre à noir de fumée qu'on a vu hier soir, c'était au Galeras, parce que c'était un volcan qui. Mais maintenant, tous les réseaux modernes sont digitaux.
Ah oui, bien sûr. Et ils sont connectés, donc on peut les
faire. Alors connectés.
Pourquoi ils ne sont pas connectés?
Bah, parce qu'il y a des.
C'est pas possible de relever les choses, du
coup. On a des. Bah, c'est intéressant comme problème. Dans nos volcans français, on a d'abord fait ça dans des faisceaux hertziens, passé par satellite. Ça coûte un peu cher, puis ça demande des connexions. On est en train de passer au système satellitaire, donc on va passer par un satellite relais qui va envoyer le signal. Mais ça coûte assez cher, et les faisceaux hertziens sont moins chers. Et les financements qu'on a, ça m'attend pas sur satellite. Mais ça coûte plus cher.
Et on ne peut pas servir des bornes relais de France Télécom enfin,
si, mais ça c'est le réseau hertzien.
D'accord.
Alors, le problème dans les volcans, c'est que c'est de la topographie. Donc, par exemple, au piton de la Fournaise, il y a une caldeira. Donc, les instruments qui viennent en bas. Et donc, tu as un saut topographique, parce que les bornes de la caldeira, c'est 150 mètres. Donc, il faut des relais, enfin, c'est compliqué. Donc, ça se fait. Non, tout est digitalisé. Pas dans tous les observatoires. Certains restent encore en voie de fumée. Tous les observatoires modernes sont digitaux.
Qu'est-ce qui peut faciliter la séparation entre la phase gazeuse et le fait qu'il y ait une individualisation?
Bah, le problème, c'est quand vous êtes en train de bouger comme ça, il y a une turbulence interne hein, que je n'ai pas traitée, parce qu'évidemment, j'ai traité le milieu avec une certaine rayologie et une certaine propriété, donc je n'ai pas traité les mouvements internes détaillés. Dans le cas du liquide que je traite, dans le cas du gaz, je pense que c'est la meilleure chose. C'est pas une mauvaise approximation. Donc la séparation des phases, c'est quelque chose qu'on peut traiter. Une fois qu'en fait, les vitesses qui sont atteintes dans le gaz sont suffisamment fortes, en général, les petits fragments, alors ça dépend de la taille du fragment. Hein, donc il faut bien voir que le gaz. Il a une certaine vitesse, le fragment est plus lourd que lui, donc la gravité fait que le fragment doit tomber alors que le gaz monte. Donc la vitesse à laquelle cette séparation se fait, c'est la différence de vitesse entre la vitesse intrinsèque de descente du fragment dans le milieu, dans le gaz, et puis d'autre part la vitesse moyenne de l'ensemble. Donc ça dépend beaucoup de la taille des fragments. Alors il faut voir qu'au début, quand le fragment a 60% par exemple de gaz, tes petits fragments de magma ils se touchent quasiment, puisque ce qu'on appelle c'est connecté, hein, donc la phase solide elle est quasiment connectée. Et donc à ce moment-là, la séparation ne se fait pas parce que tu n'as pas beaucoup de possibilités de tasser ça. Donc c'est quand tu as des fractions de gaz plus élevées, c'est quand tu as 90% de gaz et 10% de solide, bah, tu vois bien que le gaz il a tendance à se séparer. Mais ça, ça va dépendre de la taille des fragments. L'expérience montre que quand tu sors de la direction volatile, tu as des fragments qui sont millimétriques. Il y a cette caractéristique-là, en fait, le gaz arrive à entraîner beaucoup de ce la cendre, donc ça va être le gaz, en fait. Ça répond à ta question ? Alors, dès lors que tu penses à traiter une multifacette, tu peux effectivement traiter les vitesses de phase séparément. Et à ce moment-là, ça devient évidemment plus lourd. Donc, les gars que j'ai montré ignorent ça. Donc, l'expérience montre que ce n'est pas une mauvaise approximation, c'est une approximation.